J'aimerais parler sur la bénédiction malgré la persécution. Dans Daniel chapitre 6, verset 1. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre d'aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, « Nous ne trouvons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. » Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi, et ils parlèrent ainsi. « Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou quelque homme, excepté toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. » Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Nous connaissons bien la vie de cet homme, Daniel, qui était un prophète de Dieu. Et certains chrétiens pensent parfois que quand ils ont donné leur vie au Seigneur, eh bien, il n'y a plus aucune difficulté, plus aucun problème. Et quand survient une épreuve, ils pensent que Dieu les a abandonnés, ou que Dieu les a oubliés, ou que Dieu s'est détourné d'eux. Certains ne comprennent pas, ils en veulent à Dieu, et même la Bible parle de ceux qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Or, Jésus nous a bien expliqué que si nous le suivons, c'est un chemin étroit et resserré qui mène au ciel, mais il y aura des persécutions, il y aura de l'opposition. Donc, nous ne devrions pas être perturbés, nous ne devrions pas être surpris si l'opposition se dresse sur notre route. Par contre, avec l'épreuve, il prépare aussi le moyen d'en sortir. Et nous allons voir que les épreuves sont pour nous un terrain d'exercice, un terrain d'expérience où nous apprenons beaucoup sur nous-mêmes, sur Dieu, sur les autres. Les épreuves sont comme un lait de croissance. Pour un bébé, il va avoir besoin d'un lait de croissance qui va le faire grandir. Pour nous chrétiens, les épreuves, c'est un petit peu un lait de croissance spirituelle qui va nous permettre de passer des paliers et d'avancer dans l'existence. Le premier point que je vois ici, au chapitre 6 et au verset 1, plutôt au verset 3, pardon, Daniel 6, 3, c'est d'abord qu'on voit la faveur du roi sur Daniel. Verset 3 dit, « Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. » Donc Daniel, tout en restant humble, a laissé un très bon témoignage aux différents souverains qui se sont succédés. On les connaît avec la Bible. Il y a eu d'abord Nebuchadnezzar, qui a été le premier roi qui l'a servi. Ensuite, il y a eu Belshazzar, et maintenant, il sert le roi Darius. Donc les hommes passent, les souverains se succèdent, mais Daniel reste en position de direction. Il est resté fidèle à Dieu, c'est-à-dire qu'il n'a pas baissé spirituellement malgré les années qui passent. Et ça nous parle de nous entretenir spirituellement. Parce que les années passant, on peut commencer à s'avachir, à s'affaiblir spirituellement, à perdre de l'exercice, à prier moins, alors que nous devons rester toniques pour Dieu. Nous devons être un petit peu comme des thermostats à clim réversible. Donc quand il fait chaud, la clim se met en route. Quand il fait froid, le chauffage se met en route. Quoi qu'il arrive, ça réagit. Un chrétien, il doit réagir. Si la température se rafraîchit, eh bien il doit se réchauffer et non pas laisser le froid gagner son cœur. Donc il ne doit pas laisser les vicissitudes de la vie dominer, mais au contraire, bien chercher dans la parole, dans la prière, à réagir pour ne pas laisser l'influence extérieure le dominer. Donc Daniel a bien compris cela. Il a la faveur du roi parce que la main de Dieu était sur lui. Et ça, c'est vrai pour tout chrétien. On le voit dans la parole, c'est un principe. Si vous aimez Dieu, vous avez la faveur de Dieu sur votre vie, eh bien des portes vont s'ouvrir pour vous. On le voit par exemple avec Joseph, qui, bien qu'esclave dans la maison de Potiphar, la bonne main de l'Éternel était sur lui, et le responsable Potiphar lui confiait des tâches qu'il ne confiait pas à d'autres esclaves, mais il a vu chez lui une aptitude, peut-être des dons. En tout cas, il a discerné quelque chose de spécial et il lui a confié de diriger sa maison. Donc Daniel, lui, ne cherche pas la faveur des hommes, il ne cherche pas à être auprès du roi, il ne cherche pas les positions élevées. Nous, chrétiens, nous cherchons à plaire à Dieu d'abord, à chercher sa volonté, mais c'est Dieu qui établit, c'est Dieu qui élève. C'est lui qui ouvre les portes qui sont fermées, c'est lui qui ferme les portes qui doivent être fermées. Et si nous trouvons un travail, ben c'est Dieu qui l'a permis. Mais si nous quittons un travail, ben c'est que Dieu permet que nous allions dans un autre endroit ou un autre travail. Donc nous devons apprendre à dépendre de Dieu. C'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous fait rencontrer les bonnes personnes, c'est lui qui a placé Daniel à cet endroit. Donc Daniel vit dans cette reconnaissance à Dieu que Dieu a placé à l'endroit où il faut, et il a la faveur de ce roi. Le deuxième point, c'est maintenant la jalousie des hommes. Pourquoi ? Parce que la bénédiction sur la vie de Daniel va susciter la jalousie de l'entourage de Daniel. Les collègues de Daniel vont faire un plan pour l'évincer, pour lui nuire, même pour le tuer. Donc ils vont chercher tous les moyens. Même si vous aimez tout le monde, il y a des gens qui vont se retourner contre vous, c'est ainsi, c'est la nature humaine. Le cœur humain est méchant et tortueux. Psaume 41, verset 10 dit ceci. « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, c'est-à-dire il mangeait à ma table, c'était un proche, il lève le talon contre moi, c'est-à-dire il me trahit. » C'est une expression qui montre la trahison. Et ça, c'est une chose difficile à comprendre parce que vous faites du bien, parce que vous aimez la personne, parce que vous l'aidez du mieux possible, mais cette personne change d'attitude, se retourne contre vous. Et ça, ça nous parle de la nature humaine et de ses changements. Le cœur humain prend des tournures. Et c'est pourquoi nous devons veiller sur notre cœur pour le garder dans la bonne voie. Mais si nous ne faisons rien, nous allons être égarés. Donc, la personne, en fait, avec qui vous mangiez le pain, c'est-à-dire vous étiez en communion, va se détourner. Peut-être elle va vous regarder d'un mauvais œil. On le voit très bien avec Saül, qui aimait beaucoup David au début, qui l'invitait à sa table. Il avait même prévu pour lui de devenir son gendre. Et puis, à un moment donné, la Bible dit que Saül regarda David d'un œil différent. Il commence à regarder David d'un œil suspect. Il a commencé à voir chez David des choses que lui n'avait plus. Et il a commencé à être jaloux. Et voilà. Alors qu'ils étaient proches, ils sont devenus ennemis. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être un proche, ça peut être un collègue. En tout cas, la jalousie va générer une sorte d'hostilité. Alors, comment faire pour se relever quand on a été blessé ? Peut-être que c'est le cas de quelqu'un, on a été trahi, on a été blessé, donc le cœur est brisé. Alors il n'existe pas de potion ou de médicament pour réparer un cœur brisé, il n'y a pas de thérapie qui le permet, mais par contre, psaume 147, verset 3 dit ceci, c'est Dieu qui en a le pouvoir, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Vous voyez, un cœur brisé, on ne peut pas le guérir humainement parlant. Mais si vous venez dans la présence de Dieu, vous répandez votre cœur devant Dieu, vous demandez sa grâce pour qu'il restaure votre cœur, alors il pansera les blessures. Dieu, lui, il sait comment restaurer un cœur brisé. et il le fait pour nous. Donc venons au Seigneur si on a été trahi, si on a subi la jalousie des hommes, parce que comment est-ce que vous allez réagir si vous subissez cette jalousie comme Daniel, parce que vous pouvez très bien très mal le vivre, ou comme une injustice, ou même en vouloir à Dieu qui a permis ceci, ou vouloir vous venger en réglant vos comptes avec ces personnes. Et c'est d'ailleurs une option souvent choisie de régler nos comptes. Mais nous savons que si nous faisons cela et que nous choisissons ce chemin, nous allons avoir d'autres problèmes, c'est-à-dire d'autres souffrances qui viendront à cause de ces choix. Si vous tombez dans l'amertume, vous allez vous détruire vous-même, tandis que pendant ce temps, les autres, eux, ils continuent à avancer et ils ne s'occupent pas de vous. Mais Jésus nous donne l'autre voie à suivre, et celle que nous devons suivre, c'est Matthieu 5, 44. Mais moi, je vous dis, et c'est donc à l'opposé de ce que nous faisons naturellement, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Voilà le chemin que Jésus trace devant nous. C'est un chemin qui est à l'opposé du chemin du monde, qui est celui de la vengeance, de régler ses comptes, de laisser l'amertume gagner notre cœur. Non, Jésus nous dit, ne prenez pas cette option, mais prenez plutôt cette option d'aimer, de bénir, de prier, de faire du bien, d'avoir cette attitude d'un chrétien, de fils de votre Père qui est dans les cieux. C'est tellement inhabituel que même peu de chrétiens suivent cette voie-là, tellement elle est contraire à la nature humaine. Alors, frères et sœurs, nous ne sommes plus du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous devons adopter la pensée de Christ. Et nous avons d'autres valeurs qui ne sont pas les valeurs du monde, ce sont les valeurs de la parole de Dieu. Et ces valeurs-là, elles doivent être dans notre cœur, parce que si vous laissez les valeurs de la parole de Dieu vous façonner, alors vous aurez les attitudes que Christ veut. Mais il faut laisser ces valeurs entrer dans notre cœur et nous nourrir de cette bonne parole. Donc Daniel, on voit qu'il a ces valeurs en lui. Ces valeurs, c'est quoi? C'est l'amour, c'est le pardon, c'est la prière. Il ne cherche pas à se venger, à faire du mal, mais il s'en remet à Dieu. Troisième point, c'est maintenant la persécution qui arrive. Les collègues de Daniel cherchent à le faire tomber et ils ne trouvent pas de moyen dans son témoignage. Son témoignage est exemplaire. Alors, ils essayent par la loi de son Dieu, c'est-à-dire ses pratiques religieuses, et ils disent, on va trouver un moyen de le piéger parce qu'il aime tellement son Dieu qu'on va le piéger par ce moyen-là. Alors, ils viennent avec flatterie devant le roi, au roi Darius, vis éternellement, publions un décret royal, on ne va pas adresser de prière à d'autres dieux ou d'autres hommes que toi pendant une durée de un mois. Et donc, le décret est publié, que ça soit irrévocable, que ça soit signé du cachet du roi. Alors ça, c'est l'image d'aujourd'hui de ceux qui vont faire pression sur vous pour que vous reniez votre foi ou pour que vous renonciez à vivre l'évangile et que vous mettiez de côté des parties de la parole de Dieu, parce qu'il y aura des compromis. Donc là, Daniel va être éprouvé, et parfois on est éprouvé aussi au travail. Est-ce qu'on va respecter la parole? Est-ce qu'on va mentir pour faire comme le responsable demande? Vous voyez, on va être dans des situations un peu tendues, et c'est là où nous devons suivre le chemin que Dieu nous montre. Alors peut-être qu'on sera rejeté, soit au travail, dans la famille, mais rassurez-vous, si vous prenez le bon chemin, vous êtes sur le chemin qui mène au ciel, et ça n'a pas de prix. Alors peu importe les événements, même si tous se retournent contre vous, vous avez fait le bon choix. Daniel a fait le bon choix, il était seul contre tous, mais il était sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Alors Jésus nous a prévenu que nous serons persécutés, Jean 15, verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, donc c'est Jésus qui parle, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi, donc nous le savons. toute cette haine qu'il y a eu contre Jésus, eh bien, elle se répercute sur les véritables enfants de Dieu. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne sont pas proches de Dieu, ils jugent selon le monde. Et dès le début de l'histoire de l'Église, ben les premiers chrétiens ont été persécutés. Ils ont été rejetés, persécutés, mis à mort. Et finalement, nous chrétiens, on n'est bien sûr pas mis à mort à cause de notre foi, en tout cas en France, mais la persécution, elle existe, que ce soit au travail, dans les familles, dans les relations. Et nous devons être prêts à la traverser, cette persécution, ce rejet. Pourquoi ? Parce que nous aimons Christ plus que le monde. Et si nous aimons Christ plus que le monde, il faut s'attendre à cette opposition, à ce rejet, et ne pas être surpris. Ne pas être surpris parce que le monde n'aime pas Christ. Il y a un rejet. Fondamentalement, c'est comme un combat spirituel. Il y a une opposition. Le monde, en fait, il est dominé par Satan, par la chair, par les plaisirs de la chair. Et donc, si vous êtes chrétien, vous êtes dominé par l'Esprit, par la parole de Dieu, et donc il y a un combat, une opposition qui est flagrante. Donc ne soyez pas surpris, parce qu'automatiquement, Jésus l'a dit, si ils m'ont persécuté, Jésus pourtant aimait tout le monde, ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Nous le savons, ça fait partie du chemin dans lequel nous sommes. Donc Daniel est dedans, il n'est pas surpris par cette persécution, et le quatrième point, c'est maintenant l'attitude de Daniel dans l'épreuve, c'est la persévérance dans l'épreuve au verset 10. Donc Daniel 6, 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem et trois fois par jour, il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors, Daniel aurait pu faire un autre choix, se retirer dans sa chambre, fermer les fenêtres et se cacher, avoir peur des représailles. Mais il a l'audace de sa foi, comme dit Paul dans le Nouveau Testament, « Je n'ai pas honte de l'Évangile » et il affiche sa foi. Donc, il ouvre les fenêtres, il continue à prier, en fait, comme il le faisait avant le décret. Donc, les lois des hommes ne vont pas impacter sa relation avec Dieu. Ça, c'est vrai pour nous, parce que Daniel est convaincu que la loi de Dieu est au-dessus de ces lois des hommes qui vous interdisent de prier, par exemple, Dieu. Là, c'était une interdiction de prier Dieu, mais de prier le roi. Donc, si vous avez ces valeurs au fond de vous, ça va déterminer la bonne attitude. Par exemple, les apôtres ont été confrontés à cela lorsque ils annonçaient Jésus, le Sanhédrin leur a interdit d'annoncer la parole de Dieu. Le Sanhédrin, c'est un tribunal religieux qui avait tout pouvoir pour arrêter des gens qui étaient dissidents. Et ils ont réuni Pierre et les apôtres, et ils leur ont dit, nous vous interdisons d'annoncer la parole de Dieu. Donc, soit ils se soumettent, mais ils désobéissent à Dieu, soit ils désobéissent aux lois du Sanhédrin, mais ils obéissent à Dieu. Vous voyez, c'est ce débat-là. Donc, Actes chapitre 5, verset 29, les apôtres n'ont pas tourné autour du pot, ils n'ont pas essayé d'améliorer leur situation. Ils disent, Pierre et les apôtres répondirent, ben c'est simple, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Autrement dit, dites-vous, c'est la loi des hommes, c'est vous qui imposez. Vous nous interdisez de parler de Jésus, mais Dieu nous demande de le faire, donc il vaut mieux se soumettre à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà le choix clair, voilà le choix que Daniel fait, que les apôtres font. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des valeurs spirituelles qui font qu'ils vont prendre des positions quand l'épreuve et la persécution arrivent. C'est ça qu'il faut déjà avoir ces valeurs en nous. Si ces valeurs ne sont pas implantées dans notre cœur, nous ne pourrons pas prendre la position qui viendra naturellement. Il faut se nourrir de ses paroles et les avoir au fond de nous. Donc Daniel trouve toujours le temps de prier, on voit trois fois par jour, malgré ses responsabilités, malgré ses activités, frères et sœurs, on doit toujours avoir un temps dans la journée pour Dieu. Alors quand nous prenons Dieu au sérieux, on ne néglige pas la prière, Et on doit prier avec un bon état d'esprit, un état d'esprit de louange, de reconnaissance. Vous voyez, il était dans sa chambre, il priait et louait son Dieu. Il y a la prière, c'est la demande, c'est la supplication, c'est l'intercession. Et puis, il y a la louange, la reconnaissance. Il avait développé cette intimité avec Dieu, c'est-à-dire un bon état d'esprit de prière, pas toujours pour demander pour nos besoins, mais pour rendre grâce à Dieu pour sa bonté. On peut aussi prier, mais avec de l'amertume dans l'âme, par exemple, avec de la rancœur, avec de la haine contre son frère, avec des pensées mauvaises. Cette prière-là, finalement, ne plaît pas à Dieu. Parce que Jésus dit, si ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va te réconcilier avec ton frère, parce que sinon il n'y a pas approbation. Donc à un moment donné, il faut se réconcilier. La nature humaine est tellement complexe, tellement de sources de péché, nous devons travailler cela. Daniel, en tout cas, priait avec un cœur libre, avec un cœur sincère, et sa prière était entendue de Dieu. Un cinquième point maintenant, c'est la confiance en Dieu dans l'épreuve. Daniel fait le choix de persévérer malgré le décret du roi. Alors, évidemment, il est au courant que s'il continue à prier Dieu, il va se retrouver dans la fosse aux lions. Maintenant, si nous sommes croyants, nous pouvons dire « Je crois que Dieu peut m'éviter quand même de passer par la fosse aux lions. » Ou « Je crois que Dieu peut permettre que le roi agisse en ma faveur, me protège. » On va lire Daniel 6, 14. Même le roi ne peut rien faire pour lui. Le roi fut très affligé quand il entendit cela, c'est-à-dire il apprend que Daniel prie un autre Dieu que lui, et c'était donc la loi interdisait cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, donc c'est pourtant le roi. Jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver, il a cherché dans ses lois, dans les manières de faire du pays, comment on pourrait rattraper une chose pareille. Eh bien, il n'a pas trouvé de solution pour sauver Daniel, alors que c'était lui l'homme le plus puissant du pays. Rien à faire, à ce moment-là, personne ne peut rien pour lui. Ça nous parle des situations où même nos proches, même nos supérieurs hiérarchiques, tous ceux qui, ils ne peuvent plus rien faire pour nous. À un moment donné, nous sommes acculés, nous n'avons plus de solution, plus personne ne peut nous aider. C'est un moment de solitude. Mais on n'est jamais vraiment tout seul. On n'est jamais vraiment tout seul parce que Jésus est là avec nous, frères et sœurs. Donc même si le roi peut rien faire, en tout cas Daniel, il a Dieu dans son cœur et il remet tout ça entre les mains de Dieu. Alors c'est peut-être décevant, vous allez dire, parce que voilà, le roi, même si le roi peut rien faire, vous allez dire, c'est fichu. C'est fichu, je ne vais jamais m'en sortir. Le roi peut rien faire, ça veut dire j'ai pas dit. Non, le roi peut rien faire, mais il y a quand même une issue parce qu'il y a la grâce de Dieu, parce que Dieu est avec Daniel. Alors Daniel vit une injustice. Il vit une injustice parce qu'il n'a rien fait de mal. Il vit une injustice parce que le roi qui aime pourtant Daniel est contraint de le jeter dans la fosse aux lions. Il vit une injustice parce que ses collègues sont jaloux de lui. Donc, bref, il vit souffrance sur souffrance, injustice sur injustice. Il paye comme un coupable alors qu'il est innocent. À ce moment-là, on peut être tenté de se retourner vers Dieu en disant « Mais pourquoi tu as permis cette injustice ?» Alors le Seigneur n'a pas délivré Daniel de la fosse, mais dans la fosse. C'est-à-dire que quelquefois, nous aimons tellement que Dieu nous évite l'épreuve, mais Dieu permet cette épreuve pour le délivrer dans l'épreuve. Et il nous faut parfois passer par la persécution, passer par la trahison, passer par le rejet, passer par toutes sortes d'oppositions. Et c'est dans ces moments-là que le Seigneur intervient et nous sort d'affaires. Alors nous aimerions effectivement mieux ne pas passer par la fosse aux lions ou la difficulté. Mais frères et sœurs, même si nous sommes dedans, rassurons-nous quand même que le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Et là, on voit qu'il va intervenir dans la fosse aux lions. C'est le sixième point, c'est maintenant la crainte du roi. Car le roi a prié toute la nuit, il a prié Dieu pour que Daniel fasse, pour que Dieu fasse quelque chose pour Daniel, pour qu'il soit épargné. Mais en même temps, il priait sans vraiment de conviction parce qu'il avait peu d'espoir. Daniel, chapitre 6, verset 20, le lendemain matin, le roi s'approche de la fosse. Il appelle Daniel d'une voix triste, parce que pour lui, Daniel était mort. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Voilà, beaucoup de croyants prient, mais avec le doute dans le cœur, sans trop y croire. En théorie, ils savent que Dieu peut tout faire, mais en pratique, ils doutent que Dieu va faire quelque chose. Donc c'est facile de croire pour des petites choses, mais Dieu nous demande de mettre notre foi dans l'impossible et de croire des choses miraculeuses. Et le dernier point, c'est l'ange de l'Éternel, au verset 22, Daniel 6, 22. L'ange de l'Éternel, c'est Daniel qui parle, il répond au roi, « Mon Dieu a envoyé son ange. Il a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi, non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Bah, Daniel ne pouvait pas s'en sortir contre les lions, clairement, il était en difficulté, il n'avait aucune issue, mais il avait une autre force qui n'était pas physique, mais qui était spirituelle, la présence de Dieu dans son cœur. Et c'est Dieu qui a fermé la gueule des lions, il a envoyé son ange, les lions n'ont pas pu le dévorer. Et encore aujourd'hui, eh bien, Dieu est capable de changer le mal en bien, de transformer des situations impossibles, de fermer la gueule des lions, c'est-à-dire de transformer les gens les plus durs en gens plus sensibles, plus doux, remplis de l'amour de Dieu. Je prends l'exemple de Saul de Tarse, qui était vraiment un homme violent, un persécuteur. Dieu l'a transformé en apôtre. Il écrit dans 1 Corinthiens 15, 9, « Je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Voilà d'où venait Paul. C'était un persécuteur, un homme violent, il cherchait des chrétiens pour les attirer en prison, pour les punir, pour leur nuire. Et puis enfin, l'histoire se termine avec le jugement des méchants. Au verset 24, ce sont ceux qui avaient fait ce plan contre Daniel qui vont être jetés dans la fosse. Le roi ordonna que ces méchants hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions. Eux et leurs enfants et leurs femmes, avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent leurs os. Ceux-là qui avaient poussé Daniel dans la fosse aux lions sont ceux-là même qui ont été jetés dans cette fosse. Ça nous parle de ceux qui font le mal, qui tendent des pièges pour vous faire chuter. C'est qu'à un moment donné, c'est que Dieu réglera ses comptes et qu'ils tomberont eux-mêmes dans la fosse qu'ils ont creusée. Leur propre piège va se refermer sur eux. Il y a une promesse dans Nombre 23-23, « L'enchantement ne peut rien contre Jacob, c'est-à-dire le peuple d'Israël, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu ?» Donc votre destinée n'est pas liée au plan qu'on a fait sur votre vie, mais elle est entre les mains du Seigneur, c'est Dieu qui décide. On va prier quelques instants. Peut-être que quelqu'un est persécuté, malmené dans sa famille à cause de sa foi, ou ce sont des collègues comme Daniel, des collègues de travail qui ont formé un plan contre vous, ou même des connaissances qui vous veulent du mal. Mais rappelez-vous ceci, c'est que Dieu veille sur nous. Nous restons comme Daniel, nous restons les yeux fixés sur Dieu et nous continuons à prier parce que même si vous êtes béni, même Daniel dans sa bénédiction, ça n'a pas empêché les difficultés de survenir. Donc on peut être dans la persécution et être béni de Dieu. Ce n'est pas incompatible. Même la bénédiction de Dieu vous accompagnera dans la fosse aux lions, c'est-à-dire dans l'épreuve la plus sombre. La bénédiction de Dieu ne vous a pas lâché, ne vous a pas mise de côté. Dieu intervient parfois au dernier moment. Ben là, c'était clairement au moment fatidique. Il allait mourir, Dieu est intervenu. Donc nous devons lui faire confiance. Dans l'obscurité, Dieu change le mal en bien. Merci pour ta parole est certaine. Merci pour Daniel, cet homme qui a persévéré malgré un contexte d'hostilité, de persécution, d'opposition qui s'est dressée contre lui. Seigneur, nous voulons développer ces mêmes valeurs dans notre esprit afin d'adopter la bonne attitude quand survient l'opposition, la persécution. D'abord, nous ne voulons pas être surpris. Nous ne voulons pas être pris de court quand vient la persécution, car tu nous as prévenu que de même que toi, Jésus, tu as été persécuté, nous serons aussi persécutés. Donc nous voulons déjà nous préparer et nous armer spirituellement pour une opposition, une persécution potentielle. Et Seigneur, et nous te prions aussi de développer cette bonne attitude comme les apôtres, de pouvoir considérer que ta loi, ta parole est au-dessus de tous les commandements humains et de toutes ces lois qui sont hostiles à l'Évangile. Seigneur, ta parole est toujours la vérité. Nous voulons nourrir notre cœur de cet amour, d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous maltraitent ou qui nous persécutent, de faire du bien à ceux qui agissent mal et de prier pour ceux qui sont opposés à l'œuvre de Dieu, de prier pour qu'ils soient transformés. Oh, comme tu as changé Saul de Tarse en apôtre Paul, Seigneur, tu peux encore transformer des cœurs rebelles et les amener à la repentance et à la foi. Merci parce que tu changes le mal en bien et tout le mal qui avait été prévu sur Daniel a été changé pour qu'il sorte victorieux de cette fosse au lion. Merci Seigneur de nous garder dans nos épreuves, de nous protéger aussi de tous les complots et de toutes les manigances de l'adversaire, tous les traits enflammés qui sont tirés contre nous. Mais nous avons ce bouclier de la foi, cette armure spirituelle et nous voulons prier dans le nom de Jésus pour que tu gardes ton peuple dans ta paix et à ton nom toute la gloire. Amen.